Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, l'étude de l'Office de la langue française montre, après, disons, des milliers de visites dans les commerces de Montréal, que le fameux « bonjour, aïe » gagne du terrain. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette façon d'accueillir les gens? Donc, un accueil bilingue, finalement, pour Montréal. Nathalie?
Ben, c'est un voyant jaune qui s'allume sur le tableau de bord du ministre Roberge. Ministre, faut-il le rappeler, responsable de la langue française? Tu l'as d'ailleurs reçu en entrevue un peu plus tôt. J'ai envie de te dire, Paul et Luc également, le mot d'ordre, c'est vigilance. D'ailleurs, bravo à l'Office québécois de la langue française de faire ce type d'enquête, d'étude. On en a besoin parce que c'est un indicateur important, la langue d'accueil. Et j'ai envie de dire que le bonjour aïe, c'est devenu un symbole. Peut-être qu'on appuie un peu fort sur la gâchette, c'est-à-dire pour ce qui est le bonjour aïe, parce qu'il n'y a pas que le bonjour aïe qui est un indicateur pour traduire le recul de notre langue française. Mais quand c'est devenu une espèce de symbole là, de ce déclin tant décrié par la CAQ. Il faut demeurer vigilant, bien sûr, et la règle, devrait être, est toute simple en fait, puis c'est, je ne comprends pas qu'on puisse la remettre en question. Où que tu sois au Québec, tu devrais pouvoir être servi en français. C'est pas plus compliqué que ça, là. Que tu sois à Maniwaki, que tu sois à Montréal, au centre-ville, la règle devrait être celle-là. Dans le cas de ces résultats qui ont été dévoilés, il y a des nuances, bien sûr, parce que on faut quand même se réjouir qu'une grande majorité de commerçants qui accueillent leurs clients en français, bien qu'il y ait un petit recul. 84% de commerces qui accueillaient leurs clients français en 2010 versus 71% en 2023. Mais lorsqu'on regarde les résultats de Montréal, plus spécifiquement l'île de Montréal, on se rend compte que la réalité linguistique de Montréal se traduit dans ce rapport. Par exemple, les commerçants qui accueillent leurs clients en français dans l'Est de Montréal s'élèvent à 91%. L'Est de Montréal, on le sait.
Bien sûr.
Hein? Mais dans l'Ouest, c'est 49%. Alors, cette réalité historique linguistique de Montréal, elle se reflète dans ces résultats qui ont été publiés hier par l'Office.
Luc?
Ben moi je suis d'accord avec Nathalie. 10 000 visites d'abord, c'est énorme, beau travail de l'Office, mais en même temps, moi je crois pas trop les données. Ben c'est ça, Nathalie vient de révéler la patente, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais une moyenne, déjà 71 c'est pas bon. Hein, 71, ça veut dire qu'il y a 30% des fois où t'es accueilli en anglais ou à part un bonjour hi. Puis si tu mets le vrai chiffre, si t'enlèves le français qui va s'acheter un pain sur le plateau Mont-Royal dans une boulangerie française, puis que tu compares avec le magasin de souliers sur Sainte-Catherine, là, c'est deux univers complètement différents. Là, faut pas faire des moyennes dans ces affaires-là. Des moyennes ne servent à rien. Fait que la moyenne dans le centre-ville de Montréal est sans doute beaucoup plus basse que 71, puis sans doute beaucoup plus élevée à Rosemont, en français, tu sais. Fait que, donc, on dit, mettons qu'on est à 60, on ne sait pas exactement. Il y avait une petite étude qui a été faite par le Journal de Montréal. C'était une affaire, tu sais, c'était comme un vox populi. Ils avaient visité 31 commerces, puis c'était la moitié dans lesquels ils n'avaient pas pu se faire servir en français.
Mais au centre-ville, Luc, on va plaider le tourisme, c'est-à-dire que, voilà. Tu sais, parce que dans les quartiers, c'est une chose, là, c'est une clientèle plus locale, mais si tu prends la rue Sainte-Catherine, c'est quoi le pourcentage de touristes qui se promènent puis qui fréquentent les magasins?
C'est énorme. De mémoire, là, quand on faisait des études sur la rue Sainte-Catherine pour enlever le parking, spécialité locale, on avait évalué que c'était 19% des citoyens de l'Est de Montréal qui fréquentaient le centre-ville. C'était encore moins des gens de la banlieue. Donc, banlieue plutôt francophone, puis c'était moins que 19%, quelque chose comme 13-14%. Alors, c'est une réalité, c'est de l'urbanisme plus que de la sociologie. Là. C'est-à-dire que, moi, je pense que c'est de la politesse de lorsque tu penses faire face à un citoyen américain, de lui dire « aïe », c'est une forme de politesse, peut-être déplacée, parce que dans le fond, ils tentent peut-être de se faire dire bonjour, tu sais. Puis peut-être à répétition, parce que quand tu dis bonjour, puis l'autre te répond hey, tu finis par dire hey. Je trouve pas que c'est si significatif que ça. Mettons mon expérience personnelle, parce que comme je ne crois pas à ces statistiques-là, je suis impressionné par l'apprentissage du français, notamment dans des communautés qui ne le connaissaient pas, dans des types de commerce où on ne le parlait pas avant, dans des lieux de la ville où on ne le parlait pas avant. Par exemple, un petit restaurant dumplings en sous-sol dans le bout de Guy Concordia, des Chinois qui parlent en français. Ça arrivait pas avant. Et donc, oui, il y a une dégradation, mais la dégradation n'est pas là. C'est dans la langue de travail, la dégradation. Elle est grave, elle est très, très grave dans la langue de travail. La langue d'accueil, ben, je trouve qu'il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre, de bienveillance, d'écoute, et que cette statistique-là ne nous dit pas qu'il y a une anglicisation de Montréal qui est pire qu'elle était. L'anglicisation de Montréal dans l'ouest de l'île, il n'y a aucun doute, là. Mais moi, la nouvelle génération d'immigrants, je la trouve plus ouverte que les anciens Montréalais anglo qui n'ont jamais appris deux mots d'anglais de leur vie. Là.
On parlait de touristes tantôt, c'est 10 millions de visiteurs par année à Montréal. Mais il y a une réalité qui semble avoir émergé depuis quelques années, puis c'est les auditeurs qui le confirment, là, dans des quartiers très francophones, Rosemont, La Petite Patrie, Montréal-Nord, Hochelaga-Maisonneuve. Il y a des auditeurs qui nous confirment que c'est de plus en plus difficile. Je dirais pas de plus en plus difficile de se faire parler, de se faire servir en français, mais ils sentent la présence de l'anglais un peu plus fortement.
Ben, moi, je pense qu'il
y a quelques années.
Il y a une équation facile à faire. T'as un exode de beaucoup de francophones de Montréal vers la banlieue. Pensons au prix du logement, là, juste
exact.
Ça, là. Premièrement. Deuxièmement, la démographie. On fait moins d'enfants, population qui vieillit. Troisièmement, plus d'immigrants avec différents statuts. Moi, je vis à Montréal, là, puis si tu commandes Uber Eats, t'as une chance sur deux d'avoir quelqu'un qui parle français?
Oui, quand c'est des bonnes journées, ça.
Oui, c'est ouais, ça.
À la Saint-Jean.
Okay. Non, mais tu sais, c'est très rare, parce que c'est des réfugiés.
Exact.
Pis ils prennent des jobs, puis deux, puis trois, puis quatre jobs, puis c'est pas qu'ils veulent pas l'apprendre. Il n'y a pas une résistance anti-français, ils n'ont pas le temps. Puis leurs enfants vont l'apprendre à l'école.
Ils sont en mode survie, là.
Ben, beaucoup. Puis moi, je jase un peu avec eux, puis c'est... Le commerce, c'est une chose, mais les services puis la langue sur le trottoir, c'est évidemment beaucoup l'anglais, pas juste au centre-ville.
Puis à ça, ben, ça, c'est totalement vrai. Je suis pas persuadé de ça. On ajoute à ça 520 000 personnes temporaires. Enlève les 160 000 réfugiés politiques. Là, il reste, mettons, comme 320 000 travailleurs, dans lesquels 70 % des cas, ils sont venus ici pour le travail, pas pour la langue, pas pour le lieu. T'sais, ce sont des expats parfaits. Là. C'est ça, c'est une population qui bouge. Eux, ils apprendront pas le français. Là. Donc, tu mets toutes ces réalités là ensemble. Tourisme, immigration récente, pauvre, immigration temporaire de passage, donc pour des emplois généralement en technologie d'information. Tout ça te donne un portrait de l'anglais dans la rue qui est beaucoup plus élevé qu'avant. Ouais. Mais la vraie inquiétude n'est pas là, à mon avis. La vraie inquiétude, c'est les gens qui habitent ici, sont-ils obligés, peuvent-ils travailler dans leur langue en français?
Et l'économie de Montréal aussi, il faut le dire, hein, qui est une économie de sièges sociaux, entre autres. Mais une dimension qui est très importante puis qui nous interpelle personnellement, il y a la loi qui existe, hein, qui vise à protéger le français. Mais nous, notre politique linguistique à nous, personnellement, ta politique linguistique à toi, Paul Arcand, ta politique linguistique à toi, Luc Ferrandez, quelle est-elle? Je pose la question parce que j'ai reçu plusieurs fois en entrevue Jean-Benoît Nadeau, qui a développé une spécialité sur l'enjeu du français et de l'avenir du français dans l'actualité, chroniqueur dans l'actualité. Et je trouvais sa question intéressante. Quand vous allez dans un commerce, quelle est votre attitude? Si on vous dit bonjour, hi, est-ce que c'est de dire hi puis c'est d'avoir une conversation en anglais? Ou encore, vous tenez absolument mordicus à être servi en français. Et si vous n'êtes pas servi en français, vous prenez la décision de quitter le commerce. Ça, je trouve ça intéressant parce que la loi, là, elle a une portée, mais elle a aussi des limites. Mais nous, comme citoyens, comme Québécois fiers de notre langue, quels gestes on pose au quotidien pour la faire respecter?
Luc, en conclusion là-dessus.
Bien, en conclusion, le travail et la culture. Bon, okay. La langue à la maison, on le sait. Les immigrants qui viennent ici dorénavant ne parlent pas le français à la maison. Il n'y a plus ce vieille intégration-là à la française de France, là, où tout le monde se met au français. Ça n'existera plus. Avec Internet, etc., les gens restent connectés sur leur culture. C'est un fait, puis on ne peut pas le critiquer, à mon avis. Deuxième fait, la langue internationale est devenue l'anglais. 61% des sites Internet sont en anglais, alors que la population anglaise dans le monde ne représente que 26%. La bataille a été gagnée dans le virtuel avant d'être gagnée sur la rue Sainte-Catherine. Et ça non plus, on n'y peut rien. Il reste à défendre la culture francophone. Et ça, on est très loin de le faire.
Oh là là, toute une envolée, ça, pour
oui,
point final. Au retour, le fameux palmarès des urgences des hôpitaux.
La commission Normando-Ferrandaise.
Ce sont toujours les mêmes problèmes, donc des problèmes récurrents, plus le vieillissement de la population, qui explique que ça ne s'améliore pas dans les urgences au Québec. Le temps d'attente sur civière, là, ça veut dire le temps qu'on vous trouve une place sur l'étage, mais c'est au-delà de 17 heures. Ça, c'est la moyenne, puis il y a des endroits que c'est pire que ça. Le ministre Christian Dubé dit, faut pas s'inquiéter, la loi a été passée, l'agence s'en vient, les Top Guns vont être annoncés d'ici quelques jours. Alors, ça va s'améliorer progressivement. Est-ce que vous partagez son optimisme, Luc?
Plus maintenant. Après un certain temps, je le partage plus. Néanmoins, il y a des vrais efforts qui ont été faits. Allons-y. D'abord, la bataille du ticket modérateur a été gagnée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Nathalie Paul, il y a 25 ans, quand on parlait des urgences, et jusqu'à tout récemment, on disait tout le temps, elles sont embourbées par des gens qui... engorgées par des gens qui viennent pour une grippe. Ben, ce n'est plus le cas. Les gens y ont compris que ça va leur prendre 18 heures et plus, peut-être, parce que si c'est une grippe, tu ne passes pas en premier. Donc, c'est pas qu'ils seront mieux soignés ailleurs. C'est pas qu'il y a plus d'accès. Il y en a. Plus d'accès dans les groupes de médecine familiale. Mais en gros, ils ont abandonné l'idée d'aller à l'hôpital. Alors, les urgences sont vraiment engorgées par des gens qui ont besoin d'être là. Ça, c'est une première bataille de gagner. Le ministre a raison de le dire. Mais une fois ça dit, est-ce que les gens qui sont là pour les bonnes raisons sont soignés? Eh bien, non. Pourquoi? Parce qu'il manque 3 000 lits d'hôpitaux. Ça, c'est la version de Gaétan Barrette. Puis je trouve qu'il a raison. Quand tu regardes la population, la croissance démographique depuis 10 ans, puis la croissance du nombre de lits d'hôpitaux, quand tu compares le nombre de lits d'hôpitaux au Québec par rapport à d'autres pays, il en manque 3 000 minimum. Et si c'est aussi, il faut ajouter à ça qu'il y a 18% des lits qui sont occupés par des personnes qui sont trop âgées et qui ont trop de complications pour retourner seules à la maison ou dans un CHSLD. Donc, il faut un autre 3500 lits dans des installations intermédiaires, des CHSLD plus ou juste des CHSLD bien équipés. Puis finalement, il y a 1000 lits qui sont fermés par manque de personnel. Donc, tu rajoutes tout ça ensemble, c'est évident que les gens montent pas ces étages. C'est évident qu'ils restent pognés à l'urgence. Donc là, le portrait est assez clair. Alors, après ça, est-ce que on peut, avec des petites mesures, essayer d'améliorer ce portrait-là? Ben, j'en parlerai après, Nathalie.
Bravo à la presse d'avoir fait son enquête sur son palmarès, en fait, des urgences du Québec. Est-ce qu'on doit partager l'optimisme du ministre? Moi, tout comme Luc, non, je ne partage pas son optimisme. Et ce qui m'embête avec M. Dubé, que j'adore par ailleurs, c'est que son argument, c'est dire avec la création de l'agence Santé Québec, là, on va régler tous nos problèmes. La situation des urgences va s'améliorer avec la création d'une nouvelle structure. Moi, je n'y crois pas. Pourquoi? Puis tu as référé un peu, Luc, parce que les défis auxquels sont confrontées les urgences sont de nature structurelle. C'est pas juste une question de conjoncture. Alors, tout d'abord, la disponibilité des lits sur les étages, tu l'as dit, Luc, des patients avec des enjeux de santé plus complexes et plus âgés également. Il y a plus de cas de santé mentale également dans certaines urgences. Pénurie de personnel et parfois dans certains hôpitaux plus critiques, une pénurie
de spécialistes. Ben, prends l'Outaouais ce matin, là.
Ben, l'Outaouais.
L'Outaouais avec l'imagerie médicale, là. Il y a personne pour lire les résultats. On fait quoi?
Mais non, mais l'Outaouais, Paul, ça fait des années que ça dure. Mais là, on a atteint un point critique. Pourquoi? Parce que on a négligé la situation pendant des années. Et là, une autre région, c'est critique, c'est les Laurentides. Il y a même une coalition qui a été formée pour une coalition citoyenne pour dire, ben, il faut faire quelque chose. Pour certaines régions, qui composent également avec une croissance sur le plan démographique, Montérégie-Laurentide, entre autres, ben, cette pression sur le plan démographique s'exerce sur les urgences. Quand le ministre dit, la situation s'est un peu améliorée, c'est vrai, moins de P4, moins de P5 dans les urgences, puis bravo, là, si la fameuse ligne où on appelle, là, pour Info Santé, si ça fonctionne, tant mieux. Sauf que, les résultats semblent parler d'eux-mêmes. 14 heures et 12 minutes en moyenne sur civière en 2018-19 et aujourd'hui, c'est 17 heures, 26 minutes en moyenne sur civière. Alors, je veux bien croire que la situation peut avoir semblé s'améliorer, mais de toute évidence, ce n'est pas le cas. Et l'autre chose, le ministère de la Santé parle des deux côtés de la bouche. Le ministère retire des permis pour donner des lits, pour accorder des lits aux hôpitaux. Puis de l'autre côté, après ça, le ministère dit, arrangez-vous vos troupes et les problèmes à l'urgence, parce que les deux sont intimement liés. Il y a une corrélation très étroite entre les deux. Il manque de lits sur les étages, c'est sûr que ça va refouler aux urgences.
Mais pas pour rien qu'ils retirent des lits, hein. C'est parce que il y a pas les infirmières pour s'en occuper. Il y a malheureusement les initiatives qui ont été lancées par le ministre pour puis c'est des vraies initiatives là quand même, augmentation salariale considérable. Aussi subvention des études, mais ça marche pas. Qu'est-ce que je te dise? Malheureusement, ça marche pas. Il fallait le faire. C'est ça qui a été fait. Il va falloir faire autre chose. 1000 candidates infirmières en moins en ce moment dans le pipeline des infirmières qui sont aux études. D'ailleurs, ça aide pas là avec les mosses d'examen qui ont l'air de, je ne sais pas valider quel type de connaissances, mais qui avec des taux d'échec énormes. Bon, 45 médecins.
D'ailleurs, tu permets, Luc, où est l'ordre des infirmières et des infirmiers sur cette question-là? Là?
Oui.
C'est un silence, bruit de criquet, comme on dit.
Oui, une sorte de défense corporative.
Non, mais le personnel n'a pas nécessairement envie, même les nouveaux, d'aller travailler dans le système de santé public. La semaine dernière, au CHUM, là, manque, pis c'est pas juste la semaine dernière, il y a un manque régulier, permanent d'inhalothérapeutes. Conséquence des blocs opératoires fermés, conséquence des patients qui retournent sur des listes.
Hey, Paul, t'es au CHUM!
Il manque de monde au CHUM.
Écoute, un des plus grands établissements du Québec, ne pas dire en Amérique du Nord, c'est pas croyable.
Mais il manque du monde, puis il en manque partout. Puis
partout, regarde, 40% de postes affichés dans certains CHSLD qui ne sont pas comblés.
Juste rappeler que la FIC a dit non à l'entente, puis c'est toute la question de la mobilité, puis ils veulent pas se faire garocher dans un autre établissement que le leur, puis se faire changer de fonction, puis...
Mais qu'est-ce que le ministre a fait là-dessus? Il a fait des choses, puis moi je les suis une par une, ces affaires-là, puis je me dis tout le temps, ça va-tu marcher? Première affaire, son bras de fer avec les agences en ce moment, parce que c'est vrai qu'il y a un trou dans le système. Là. Si tu es obligé de travailler sur un poste à temps plein, qu'on peut te déplacer sur un autre poste avec un préavis à 25 km, puis que ça te tente pas d'y aller, mais tu t'en vas dans une agence. Alors, la base, parce que les agences vont choisir tes heures, parce que tu vas peut-être être payé un peu plus, etc. La base, c'est d'éliminer les agences. Malheureusement, pas que les agences font du mauvais travail, c'est juste que c'est un trou dans le fond du panier. Là. C'est trop facile pour une infirmière de quitter le système. Donc, éliminer les agences, c'est un travail en cours. Là. Donc, ils ont limité les salaires, d'une part, puis d'autre part, ils les éliminent carrément. Ça commence en 2024 à Montréal, ça va se rendre jusqu'en 2026.
Mais c'est très préoccupant. Moi, je suis très préoccupé par ça. Parce qu'il y a dans certains hôpitaux, il y a des corps de travail qui sont assurés à 80% par les employés d'agence.
Oui.
Alors, le ministre mise sur une nouvelle cohorte qui va arriver, entre autres préposés aux bénéficiaires, pour combler ce manque à gagner avec le personnel des agences. Mais moi, je trouve que ça relève un peu de la pensée magique. Là.
Mais pensée magique. Moi, je dirais pari. Parce qu'ils ont une sorte de succès. Là. Ils ont réussi à...
C'est pas mal synonyme.
Hein? Quoi?
C'est pas mal synonyme.
Oui, mais c'est un pari. T'sais, ils vont voir les infirmières dans les agences, leur dire, regarde, ta job disparaît dans 2 mois. Je t'offre une place en hôpital. Ils ont réussi à en récupérer quelques centaines. Ils en ont besoin de quelques milliers. Le travail est en cours. Est-ce que ça va marcher? Si ça marche pas, le ministre va être obligé de dire ben ça a raté, puis là, il faut regarder autre
chose. Les agences, on va continuer, on n'aura pas le choix.
Mais rapidement, un cas inspirant, la presse fait état de l'Hôtel-Dieu de Québec. Okay. Ils ont réussi, eux, en créant une direction de la fluidité à gérer en temps réel les patients qui arrivent à l'urgence. C'est extraordinaire ce qu'ils font.
C'est-tu la même gang qui fait ça à Montréal pour la fluidité?
Non, mais honnêtement, parce que là, on est très négatif ce matin.
Mais Nathalie, un petit mot là-dessus. Nathalie, un petit mot. Ça, c'était ce que l'hôpital juif faisait il y a 2-3 ans. Puis depuis 3 ans, ça marche moins. Sais-tu pourquoi ça marche moins? Parce que l'affluence a augmenté.
C'est ça.
Quand l'affluence augmente,
quand tu dis que
ce genre de solution
part,
de
marche.
Ouais. On verra, comme dirait l'autre.
Merci, on s'arrête là-dessus.
C'est 23.